Croisa Contes en bande a choisi pour vous quelques nouvelles de Guy de Maupassant, nouvelles tirées de sa vie parisienne.
Le Horla. 17 août.
Ah, quelle nuit ! Quelle nuit ! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à 1h du matin, j'ai lu. Donc, ayant lu jusqu'à 1h du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède. Comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes ? Quelle forme ? Quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas ? Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous ? Que peuvent-ils plus que nous ? Que voient-ils que nous ne connaissons point ? Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne au délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au frais du soir.
Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre, je ne vis rien d'abord. Puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était rentré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis. Oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait.
D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer.
Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les bâtons.
Donc il s'était sauvé, il avait eu peur. Peur de moi, lui. Alors demain ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître ?
18 août.
Je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du monde scientifique. À présent, je sais.
Je devine.
Le règne de l'homme est fini.
Il est venu celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs.
Malheur à nous.
Malheur à l'homme.
Il est venu le...
Comment se nomme-t-il ?
Il me semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas.
Oui, il le crie.
J'écoute. Non, je ne peux pas.
Répète, le...
Horla.
J'ai entendu, le Horla.
C'est lui, le Horla.
Il est venu.
Un être nouveau.
Pourquoi ça ?
Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers ?
Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous.
C'est que sa nature est plus parfaite, son cœur plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes. Que le nôtre, qui vit comme une plante et comme une bête en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes.
Qu'ai-je donc ?
C'est lui. Lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi. Il devient mon âme. Je le tuerai.
19 août.
Je le tuerai. Je l'ai vu.
Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention.
Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir.
Et alors ?
Alors, j'aurais la force des désespérés, j'aurais mes mains montées, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer.
Et je le guettais avec tous mes organes surexcités.
J'avais allumé mes deux lampes et les 8 bougies de ma cheminée comme si j'eusse pu dans cette clarté le découvrir.
En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes.
À droite, ma cheminée, à gauche, ma porte fermée avec soin après avoir laissé longtemps ouverte afin de l'attirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant.
Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis. Je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule. Qu'il était là, frôlant mon oreille.
Je me dressai les mains tendues.
En me tournant si vite que je faillis tomber.
Eh bien ?
On y voyait comme en plein jour. Et je ne me vis pas dans ma glace.
Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière.
Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela, avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer.
Je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet.
Comme j'eus peur, puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image. De seconde en seconde, c'était comme la fin d'une éclipse.
Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu.
Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner.
10 septembre.
Hier, donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid.
Tout à coup, j'ai senti qu'il était là. Une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien. Puis, j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour.
Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper, et je l'enfermais tout seul, tout seul. Quelle joie ! Je le tenais.
Alors, je descendis en courant, je pris dans mon salon sous ma chambre mes 2 lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis, j'y mis le feu et je me sauvai après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée.
Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long ! Comme ce fut long ! Tout était noir, muet, immobile. Pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais.
Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit.
Une lueur courut dans les arbres.
Dans les branches.
Dans les feuilles.
Un frisson.
Un frisson de peur aussi.
Un chien se mit à hurler.
Les oiseaux se réveillaient.
Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt.
Je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier.
Mais un cri.
Un cri horrible.
Suraigu.
Déchirant.
Un cri de femme passa dans la nuit.
Deux mansardes s'ouvrirent.
J'avais oublié mes domestiques.
Je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me suis mis à courir vers le village en hurlant. Au secours, au secours, au feu, au feu! Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir.
La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître.
Le Horla !
Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort.
Mort, peut-être. Son corps.
Son corps, que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres ?
S'il n'était pas mort.
Après l'homme, le Horla.
Après celui qui peut mourir tous les jours, toutes les heures, à toutes les minutes.
Il est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute. Parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il n'est pas mort.
Alors ? Alors il va donc falloir que je me tue, moi.
Troisa Contes en bande propose également des lectures à la carte, petits spectacles à domicile. Vous pouvez faire appel à nous pour lire chez vous toute une palette de textes autour du bonheur, impertinence, contes de mots passants, Matin brun, matin blême, paroles sans musique, ça fait le compte, humour en variation, et bien d'autres choses encore. Une réunion de famille, d'amis, de voisins, une rencontre associative. Troisa Contes en bande est là pour vous proposer ces textes et vous les lire chez vous.